Gladwag Doll, c'était l'orchestra Blue Star, et nous étions à Milan, à l'extrême fin des années 20, en 1929, très précisément.
C'est ça. George Paczynski, puis-je vous poser une question ?
Oh André, quand vous voulez, comme vous voulez, comme vous le désirez.
Bien, est-ce que vous connaissez Jack Papalane ?
Oui, bien entendu, oh, bah, bien entendu. Vous avez eu la gentillesse d'ailleurs de me donner une photo de sa grosse caisse pour le premier tome de l'histoire de la batterie.
C'est exact.
Et vous aviez été dans le musée de la Nouvelle-Orléans.
Exact.
Et vous avez pris la photo dans ce musée assez triste, d'après ce que vous m'aviez dit.
Voilà, mais
C'est comme joueur de grosse caisse essentiellement qu'il était connu.
Et grosse caisse ici.
Mais Dieu sait que ça comptait la grosse caisse dans les
orchestres
de marche.
Ce que vous ne savez pas, George Paczynski.
Il m'effraie, André.
Non, c'est que Jack Papalane s'appelait en réalité Giorgio Vitale.
Non.
Oh
non, il nous fait ce coup-là, André.
C'est pas moi, c'est Mazzoletti.
C'est magnifique. On va découvrir que Parker avait des origines italiennes.
Voilà, donc Giorgio Vitale, plus connu sous le nom de Jack Papalane, était un chef d'orchestre qui avait fondé le Reliance Brass Band, qui a été actif de 1892 à 1913. Et dans cet orchestre jouait du tuba, un nommé Giuseppe Alessandra, rebaptisé Joe Alexander, émigré italien, bien entendu. Alors, ça nous laisse un petit peu songeurs sur le rôle de ces musiciens italiens dans la genèse et la création du jazz.
C'est intéressant de voir qu'il y a eu une époque, vous vous en souvenez, où les Français essayaient de tirer la couverture à eux pour montrer que l'influence française avait été prépondérante à la Nouvelle-Orléans.
Eh bien, dans ce Reliance Brass Band, il y avait donc Giuseppe Alessandra, mais il y avait aussi La Rocca, Nick La Rocca, qui prendra quelques années plus tard la tête de l'original Dixon Jazz Band. Il y avait les frères Brunet, c'est le trombone, il y avait le clarinettiste Alcide Nunez, il y avait Eddie Edwards, le trombone, qui joua ensuite à côté de Nick La Rocca. Tous ces musiciens appartenaient donc à la formation de ce brass band créé par un Italien, dénommé Papalane. Des musiciens, donc, il y en avait en Italie. L'album dont a parlé Alain tout à l'heure, Les 40 années de jazz, réalisé par Mazzoletti en 65, comporte une centaine de photos de musiciens, d'orchestres, donc ils existaient. Et ce jazz existait. Simplement, on n'en avait pas conscience. Les Italiens comme les Français ont connu la musique rythmée, foxtrotisante, avec l'arrivée des fanfares Jim Europe, la dispersion des musiciens de l'orchestre de Wilmarion Cook en 1919, qui se sont essaimés un petit peu, partant d'Angleterre, et qui se sont essaimés dans toute l'Europe, et qui ont été, en quelque sorte, un petit peu des modèles. Il y a, en 1918, un enregistrement qui est « At the Jazz Band Ball », qui est créé par l'ODJB, un enregistrement de 1918 dans la série de Mazzoletti. Donc l'imitation avait été très rapide, l'assimilation, sinon l'assimilation. Et les premiers jazz bands sont apparus vers 21, 22 et ces années-là. Donc il y avait des musiciens, il y avait une existence. Le problème pour l'Italie, c'est que des musiciens, il y en avait, c'est un public qu'il n'y avait pas. Et surtout pas ce que j'appellerais des catéchumènes, des propagandistes. Il n'y avait pas d'enthousiasme en Italie de la part de l'intelligentsia. C'est la différence avec la France.
France, oui, bien sûr.
Où en France, il y a eu les Panassiers, les Delaunay, Henri Bernard, Pierre Nourry, qui n'avait fait que suivre précisément la voie ouverte par Cocteau. Je rappelle que Le Coq et l'Arlequin, c'est 1918. Je citerai un extrait de L'Esprit Nouveau, 1924. Quelqu'un a dit « Les Américains du Nord ont vraiment trouvé l'expression d'une forme d'art qui leur est absolument propre. » Et ce quelqu'un, c'était Darius Milhaud. Au lieu de cela, en Italie, il y avait Pietro Mascagni, l'auteur de Cavalleria Rusticana, qui lui a écrit des élucubrations de pacotille, croyez-le, quant à moi, je considère cette musique comme une sorte de perversion cérébrale, une cocaïne de la sensibilité. Voilà, c'était dans le Il Giornale d'Italia en 1929, c'était Mascagni. Vous voyez toute la différence entre France et Italie. Alors, il y a aussi un personnage qui s'est signalé, c'est Gramsci, le fondateur du Parti communiste italien, qui s'est montré hostile au jazz lui aussi. Mazzoletti cite tout ça dans le bouquin, bien entendu.
Oui, c'est tout à fait passionnant, c'est des sujets que nous n'avons jamais abordés, Alain. Jamais.
Alors, les intellectuels français, parisiens, contrairement aux Italiens, étaient très favorables, et beaucoup de musiciens classiques ont montré, comme Darius Milhaud, qu'ils avaient les oreilles grandes ouvertes pour accueillir ce qui leur semblait neuf. Et je voudrais citer aussi un extrait de 1926. En vain fermera-t-on l'oreille au jazz, il est vie, il est art, il est ivresse des sons et des bruits, il est joie animale des mouvements souples, il est mélancolie des passions, il est nous d'aujourd'hui. Et ça, c'est signé André Queroy et André Scheffner dans leur bouquin, un bouquin publié en 1926. Oh oui. L'Italie, il a fallu attendre 1938 pour trouver un premier témoignage en faveur du jazz et qui s'intitulait « Introduzione alla vera musica di jazz ». C'était signé Ezio Levi et Giancarlo Testoni. Ezio Levi n'a rien à voir avec Primo Levi. Oui. Hein. Donc, vous voyez, 1938, on fait un petit livre, enfin une petite plaquette, introduction à la musique de jazz, alors que depuis 10 ans, Queroy et Scheffner et puis les autres avaient dit ce qu'il y avait, ce qu'on pouvait faire et évoquer à propos de la musique de jazz. La première revue, d'ailleurs, consacrée au jazz n'est apparue qu'au lendemain de la guerre, en 1945, Musica Jazz, sous la direction de Testoni et Polillo. 45 seulement, Jazzot existait depuis 1935.
Mon cher André, alors j'annonçais tout à l'heure un morceau des années 30, ben voilà, j'avais simplement
je vous propose le quartet,
un peu d'avance sur le métro.
Le Quartetto Cetra ?
Absolument.
Cetra qui est une maison de disques, c'était une étiquette, et qui avait hébergé des musiciens pour faire un disque, quoi, comme on aurait appelé ça l'Orchestre Columbia. Il présente l'intérêt, ce morceau qui s'intitule Sympathy, de faire entendre Agostino Valdambrini, qui est un violoniste.